Bonjour à tous, on est le lundi de Pâques, j'espère que vous travaillez bien ou pas, ou que vous profitez vos repas en famille, il est 15h. C'est un podcast un petit peu exceptionnel aujourd'hui car je vais vous faire découvrir la retransmission d'une interview que j'ai réalisée il y a 2 semaines, un dimanche matin, sur Skype avec Roméo Arnaud. Alors, Roméo, qui c'est ? Roméo est un des clients d'IPFix, il gère une dizaine de blogs, il est blogueur depuis 10 ans je crois. Vous découvrirez tout ça dans ce podcast exceptionnel. Et Roméo a un parcours phénoménal. Donc il a 23 ans depuis une semaine et là il est parti un an au Japon avec un sac de 17 kilos pour gérer ses blogs, faire du tourisme. Bref, c'est un mec super sympa, vous allez découvrir une personne comme on en a pas beaucoup, enfin, on n'a pas souvent l'occasion de croiser des mecs pareils, et je vous invite même à aller consulter hein, sur Amazon son livre, hein. C'est un livre qui est pas cher, il se lit bien, il y a un peu plus de 100 pages, il s'appelle Petit blogueur deviendra grand, où il vous raconte son parcours, et c'est un petit jeune qu'on a, comme disaient les Deschiens. Voilà, c'est un podcast exceptionnel, ça dure pas loin d'une heure. Voilà, j'espère que vous vous amuserez autant que je me suis amusé. Bon, on s'amuse pas, mais c'était vraiment très très plaisant. C'était une superbe rencontre avec Roméo. À plus tard, ciao ciao, salut tout le monde. Alors, j'ai à côté de moi, donc bonjour tout le monde, hein, on est le dimanche, je ne sais pas même pas combien on doit être le 5, il est 11h07, non on est le 7, il est 11h07 et je suis avec Roméo Arnaud qui est un des clients IPFix mais qui est surtout blogueur et auteur de ceci. Petit blogueur deviendra grand. Donc je vous mettrai la capture d'écran du livre. Hein. C'est un livre auto-édité chez Amazon. Alors je ne connaissais pas le principe d'auto-édition Amazon. Et donc voilà, Roméo donc, est un client, donc sous son pseudo Gronemo sur Twitter. Là, j'adore ce pseudo, c'est très très drôle. Et Roméo a décidé de partir pendant un an au Japon. Ayant... Méga parcours, alors présente-toi, tu as quel âge ? Vas-y, je te laisse parler.
Donc moi c'est Roméo, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans dans quelques jours, dans 7 jours en fait, comme une semaine tout pile. Et puis bah, en fait j'ai eu un parcours un peu particulier, j'ai commencé à créer un blog quand j'avais 13 ans. Au début c'était juste pour tester WordPress, parce que j'ai trouvé un hébergement gratuit, je m'étais dit bon allez, on va essayer, j'ai suivi un tuto, je connaissais rien du tout, tout ce qui était base de données, etc. Je me retrouvais sur PHP et Admin, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis finalement, au final, bon, bah, j'ai suivi le tuto, j'ai créé un blog, j'ai écrit 2-3 articles. J'ai envoyé ça à un ami, il m'a dit ouais, c'est sympa, on peut continuer à tenter de faire quelque chose. Donc j'ai écrit des articles. Et puis au bout de 3 mois, j'avais déjà rédigé 100 articles sur le blog. Et là, j'ai eu les premiers partenariats qui sont arrivés. Des grosses marques à l'époque, surtout quand j'avais 13 ans. Donc à l'époque, je n'osais pas donner mon âge.
J'ai eu ça.
Parce que je me suis dit, putain, si jamais je dis que j'ai 13 ans, plus personne ne voudra bosser avec moi. Donc voilà, et ça a duré encore pendant quelques années. Puis j'ai lancé un deuxième site, puis un troisième. Ça a bien fonctionné. Et après, je me suis dit, vers mes 15-16 ans, bon, bah, je vais continuer. Je suis certain qu'à l'avenir, ça va permettre de faire quelque chose, ces blogs. Tout le monde me disait, mais non, ça ne sert à rien, c'est ni plus ni moins qu'un Skyblog. Je me suis un peu accroché quand même. Et puis voilà, et après, moi, vraiment, ce que je voulais faire, c'était community manager à la base. Mmh. Donc, j'ai eu la chance de faire des études pour être community manager pendant 3 ans. J'ai une entreprise avec laquelle je me suis bien entendu, qui m'a pris en stage, qui m'a pris en alternance, qui m'avait promis le CDI avant même le stage, qui m'avait dit on va te prendre en stage, et puis si ça se passe bien derrière, tu feras un CDI. Tout s'est bien passé. Je me suis retrouvé après à la tête du pôle social média de cette entreprise-là. Et puis, au bout d'un an, un peu plus d'un an après, à ce poste-là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je pouvais pas rester 8 heures par jour devant mon ordi, c'était pas possible. À côté de ça, j'étais déjà auto-entrepreneur à côté, en parallèle. Ouais. Et je suis aussi professeur, enfin, j'étais professeur à l'université de Bordeaux, avec certains étudiants qui parfois étaient plus âgés que moi, donc c'était, voilà. Mais 3 à la fois, c'était un peu compliqué à gérer.
Bah, je me doute, ouais. Alors, attends, on va naviguer petit à petit, si ouais. Tu permets. Alors, je suis sur ton livre, là, je navigue sur AOL, j'ai l'impression d'être né il y a 2 siècles en écrivant ces 3 lettres. Ouais, t'as connu ça, toi aussi ?
Ouais, Personne n'a connu.
Ah ouais, quoi. Bah oui, et déconnecte-toi, je peux pas téléphoner quand t'es sur internet, te dit sa mère. On a connu les modems en 56K. Ah, on est des vieux dinosaures quand même. Hein.
Non, mais j'ai l'impression que parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, internet c'est tellement répandu. Tous les jeunes vont sur internet. Pour eux, c'est plus qu'un outil, c'est vraiment quelque chose qui est inné en fait et qui est déjà acquis. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, déjà, juste que mes parents me laissent aller sur un ordinateur tout seul. À l'époque, c'était sur la ligne, j'étais le seul de mon village à avoir Internet. Quand je parlais d'Internet aux autres, c'était « Ah bon, mais c'est quoi ?» Et donc, du coup, ouais, c'est un peu… je pense que j'ai eu de la chance aussi d'avoir eu des parents qui ont eu accès à cette technologie.
C'est clair.
Et qui m'ont laissé un peu faire ce que je voulais dessus, même s'ils surveillaient, hein, mais de faire ce que je voulais.
Alors, je vois dans le chapitre 7, le titre du chapitre 7, « Je n'ai pas aimé qu'on me dise que ce que je faisais ne servait à rien, alors j'ai foncé pour prouver l'inverse. » Et une autre phrase juste après, « Une équipe pédagogique à la ramasse qui ne comprenait rien à ce que je disais. » Et moi, j'ai vécu ça dans mon cursus scolaire aussi, plus ou moins lamentable pour ma part. Mais effectivement, à un moment donné, l'éducation nationale, en France en tout cas, a été à la ramasse. Et tu as eu la ténacité de prouver l'inverse, quoi, de te dire « Ouais, je vais vous la faire à l'envers, quoi. Je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose. »
Alors en fait, c'est pas contre l'éducation nationale parce que je trouve que les profs font pas un travail facile et c'est compliqué.
Bien sûr.
C'est juste que en fait, je trouve que dans le monde du numérique et notamment dans ces métiers-là, bah ils sont pas formés pour. Et effectivement, il y a 6-7 ans, quand je disais moi ce que je veux faire, c'est animer des réseaux sociaux sur Internet, on me disait mais personne n'est payé à mettre des posts sur Facebook. Sauf qu'à l'époque, moi avec mes blogs, je travaillais avec des community managers de grands groupes. Avec lesquels on échangeait parce que parfois il n'y avait même pas de service de relations presse avec les blogueurs, c'était les community managers qui s'en chargeaient.
Ah oui.
Et je savais que c'était possible en fait. Donc qu'on me dise bah non, c'est pas possible, si, c'est possible. Et quand je le disais, on me disait oui, mais tu vis dans un monde utopique. Là, tu vises un métier, mais il y a 10 postes en France. Et quand tu arriveras à la fin de tes études, de toute façon, tous ces postes-là, bah, ils seront déjà pris par des gens. Donc il n'y en aura plus pour toi.
Alors,
je me suis dit, croyez ce que vous voulez.
Et tu mets un peu plus loin. Je dois bien avouer que 90% des compétences qui me servent quotidiennement sont issues de mes projets personnels et non de mes études. Et c'est encore le cas, je le crois, mais vraiment, hein, à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Japon, je sais que les Nord-Américains et Québécois sont pas comme ça, et même dans les pays, tout ce qui est Suède, Danemark, Norvège, ils n'ont pas la même capacité, mais enfin, la même vision, hein, de l'éducation, du système éducatif. Mais oui, 90% des compétences de ce qu'on a appris en cours, ma fille a 12 ans, je me dis, il y a 90% des trucs qui ne lui serviront jamais, et c'est encore le cas à l'heure actuelle.
Ouais, c'est en même temps. Alors ça me pose, enfin je l'entends, tu vois, et j'ai aussi donné quelques cours dans le public, donc j'ai pu voir un petit peu, effectivement j'ai pas non plus fait 4 ans en tant que prof, mais j'ai pu voir aussi les limites que tu peux avoir dans le monde éducatif, des limites financières, des limites voilà qui sont un peu plus globales, et en fait je pense qu'aujourd'hui très vite on veut orienter un élève vers un domaine, très vite on veut essayer de leur donner un aspect à peu près global de tout ce qui est possible de voir, de plein de matières, etc. Moi, je sais que moi, j'ai galéré avec les maths, par exemple, et j'ai fini par lâcher totalement les maths très rapidement.
Et l'orthographe.
Alors, on me disait, dans l'informatique, sans les maths, tu feras rien.
Et l'orthographe.
Et je me suis dit, mais si. Et en fait, je pense que c'est juste un problème de motivation des élèves. Parce que c'est bien de voir tous les domaines. Il faut forcément voir du français, voir des maths. Mais à un moment donné, il faut aussi peut-être juste dire aux élèves, on peut pas être bon partout, ou alors on n'a peut-être pas envie de faire tout ça. On peut favoriser certains domaines. Et c'est pas grave si effectivement en maths tu lâches un peu l'affaire, si derrière tout le reste suit. On t'a pas demandé de devenir mathématicien, quoi.
Non, c'est voilà. Clair. Blogueur, oui, c'est un métier.
Oui, ah oui. Et je défendrai cette idée pendant longtemps parce que on me répète tout le temps que c'est pas un métier et que là en gros je suis juste payé à voyager, quoi.
Tu fais pas que voyager, tu bosses?
Non, évidemment, je bosse aussi. Tu vois, là par exemple, aujourd'hui on est dimanche. Je me suis réveillé à 8h du matin, là au Japon il est 18h. Ça fait 10h non-stop que je travaille.
Pour toi, pour toi ou pour des clients à l'heure actuelle?
Là c'était pour moi, parce qu'en fait, du coup, je m'en vais donc 5 jours en Corée du Sud après.
D'accord.
Donc c'est les 5 premiers vrais jours que je me prends sans ordinateur. Enfin, je dis ça, je sais même pas si je... peut-être que je prendrai mon ordinateur, mais j'essaie de pas avoir d'accord. mon iPad. Et en fait, j'essaie de tout prévoir d'avance. Donc, d'accord. ça me nécessite pas mal de travail. Et en fait, là, ça fait quand même presque 10 jours que je travaille non-stop, sans vraiment de journée de libre. Demain soir, je fais une soirée avec des amis et après, je me prends ma journée de mardi complète, pareil, pour sortir, etc., pour profiter avant de partir en Corée du Sud. Ça, je me suis pris qu'une journée sur 10 jours, tu vois. Alors que, effectivement, quand j'étais salarié, le week-end, j'étais tranquille.
Bien sûr.
Pour moi, la journée, elle se terminait tard vendredi soir, enfin la semaine.
Bien sûr, et pas, parce que pour avoir été salarié, surtout quand des fois, t'as un poste à responsabilité, même le dimanche, tu laisses pas tomber, quoi. Moi, à l'heure actuelle, même le dimanche, je m'assure à ce que tout le monde soit en ligne et que tout fonctionne. Donc, mais il y a des salariés aussi qui décrochent. Et il sait pas...
Dans le métier de community manager, on peut pas vraiment avoir de déconnexion.
Ouais.
Parce qu'en fait, on doit être à l'écoute à tout moment d'un bad buzz ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu de la chance dans les clients que j'avais. Mais honnêtement... c'est clair que je peux pas, même quand j'étais chez moi, et ça c'est des heures que j'ai passées où j'ai pas été payé, quand j'ai été payé, même si j'ai pu faire des heures supplémentaires à plusieurs reprises, mais bon ça après c'est avec moi et l'entreprise, mais oui, en tant que community manager, c'est cette surconnexion qui m'a aussi demandé, enfin qui m'a donné envie de changer de vie. Faire ce que tu fais, quand un site a un souci, que j'envoie un message et que j'ai une réponse à 1h du matin parfois, un dimanche, personnellement, je sais que c'est une nécessité. C'est aussi pour ça que j'ai choisi IPFIX, pour être très honnête. Mais en même temps, je pourrais pas, enfin, à ta place, je sais très bien que c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, pour moi, est envisageable.
D'accord.
Sauf si c'est vraiment de la passion et que j'apprécie. Mais répondre, enfin, il y a une différence entre faire quelque chose par passion. Moi, si à 2h du matin, j'ai envie d'écrire un article, c'est très bien. Ou répondre à un mail d'un client un peu pénible, ou qui a un problème avec son site, c'est totalement différent. Tu vois?
Je
l'ai voulu, l'autre, je réponds à un besoin.
Ouais. Moi, je l'ai voulu aussi, hein, le côté IPFIX. Et puis, j'avais aussi un. Pas un challenge à relever, mais IPFIX jouissait de la bonne notoriété d'EuroWH et de Dev. Donc, j'étais obligé d'assumer le même service pour garder, déjà, ne serait-ce que d'avoir gardé ma clientèle, évidemment, en acquérir une nouvelle et que tout le monde soit content. Donc, effectivement, que je sois sur mon iPad en train de regarder la télé à 11h du soir, en train de lire ou en train de répondre à un client qui a un problème sur son WordPress, moi, ça change rien. La passion est la même, donc c'est pas voilà, un souci. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Instagram
alors, en fait, c'est simple. C'est parce que Instagram, moi, je l'ai jamais utilisé à but personnel. Donc, j'ai jamais eu de compte perso. Tous mes amis étaient dessus. Moi, non. Moi, je publiais juste les photos de ce que les marques m'envoyaient.
D'accord.
Et je suis arrivé à un moment donné où j'en avais marre que les marques m'envoient des produits, à tel point que j'ai envoyé des messages aux marques en demandant d'arrêter de m'envoyer des produits si je les demandais pas, parce que c'est pas parce qu'on me les enviait que j'allais en faire un article.
Ouais.
Et puis, il faut quand même se remettre dans le contexte. C'était une époque où aujourd'hui, ce qu'on appelle influenceur n'existait pas forcément. On n'avait que des blogueurs. Donc, c'était le début. Donc, on avait tendance à envoyer des choses pas très ciblées. Enfin, voilà, c'était vraiment aussi le début un petit peu de on envoie des cadeaux et on espère un article en retour.
D'accord.
Et on
se
sentait presque obligé d'écrire un article à ce moment-là.
Ah,
et donc, ouais, moi, à un moment donné, j'en avais eu marre. Donc, j'ai plus ou moins arrêté ce compte Instagram. Et puis j'ai l'impression qu'en fait tout le monde, même les gens que je connaissais, bah, c'était pas les mêmes sur Instagram et dans la vraie vie.
Donc,
d'un côté t'avais des gens qui avaient une vie plus ou moins luxueuse, tous les week-ends ils sortaient, etc. Alors je sais très bien que c'était pas le cas. Et en fait j'ai un vrai problème, c'est que pour moi l'honnêteté c'est quelque chose de, vraiment de basique, et j'ai un problème avec les faux culs, je ne peux pas, ça ne passe pas. Et voilà, donc c'est pas possible, des gens qui s'inventent une vie, pour moi ce n'est pas possible. On peut montrer des belles choses et Instagram c'est fait pour ça évidemment.
Ouais, oui, bien sûr, ouais. Bah, après c'est...
Non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai vraiment fait une surdose à tel point que Instagram, pour moi, c'était un combat, quoi.
D'accord.
Là, je suis au Japon et j'ai pas le choix. Enfin, c'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est que dans le cadre d'un développement d'un blog voyage,
oui.
Tu te doutes bien qu'Instagram, voilà, j'ai pas le choix et ça fonctionne plutôt très bien et donc je suis très content. Mais il y a beaucoup de choses qui sont planifiées, notamment les posts. On a l'impression que c'est moi qui poste au quotidien. 70% des choses sont programmées en avance.
D'accord.
Donc, je suis direct sur mon téléphone.
Voilà. Même pour Instagram, tu programmes, t'es pas dans l'instantané.
Alors, pour les stories, ça m'arrive, parfois non. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis une ou deux photos dans ma story. C'est des photos qui ont été prises il y a quelques jours.
D'accord. Oui, bon, c'est pas très très grave parce qu'on n'a pas. Enfin, à moins que tu assistes à un événement, à une date clé, etc. Et donc là, tu fais du direct parce que tu y es. Mais sinon, d'accord, effectivement. C'est quoi tes journées type à l'heure actuelle et depuis combien de temps tu es parti déjà?
Alors, moi, je suis parti donc mi-janvier, donc ça va faire 3 mois bientôt.
D'accord.
Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vrai, j'ai pas de journée type. Déjà, je reçois pas mal de mails. Je traite, on va dire, 70% de mes mails sur Gmail parce que c'est des contacts que j'ai depuis très longtemps. Mm-hmm. Et donc, quand j'avais 13 ans, bah, je savais pas qu'on pouvait créer une boîte mail. Et donc, voilà, je traitais beaucoup de mails avec ma boîte Gmail et je l'ai gardé parce que ces contacts-là ont toujours eu ce mail-là. Donc, bah, j'ouvre Gmail le matin.
D'accord.
Je regarde 200 mails, 200, 300 mails parfois. C'est un peu compliqué parce que du coup, bah, j'en suis à 10 blogs aujourd'hui.
Ah oui.
Et vraiment, j'ai quand même 9 boîtes mails différentes aussi. Donc, ça commence à faire beaucoup.
Je connais.
voilà. Premièrement, le traitement des mails, ça prend longtemps. Concrètement, alors avant, je prenais plus longtemps. Maintenant, ce que je fais, je regarde le sujet. C'est que je supprime ou j'archive sans même ouvrir le mail. Parce que clairement, j'ai pas le temps. Et si je passe à côté des choses, tant pis. Et je me dis, bah, au pire, les gens me renverront un mail si vraiment c'était important. Quoi.
D'accord, ouais.
Et donc voilà.
Ouais. Après, hein, tu te laisses un peu de temps au tourisme ou c'est direct boulot quand même?
Alors non, je laisse quand même du temps au tourisme parce que sinon je serais pas venu là. Enfin, tu vois, c'est un peu.
Voilà.
J'ai pas envie de gâcher mon année, c'est une chance. J'ai un visa d'un an. Je sais pas si je resterai. Je sais pas ce qu'il en est pour l'heure, mais là, à l'heure actuelle, je préfère souvent travailler le matin et avoir l'après-midi libre. Ou alors, ce que je fais, c'est que je travaille 2 ou 3 jours d'affilée, vraiment non-stop. Et après, je me prends une journée et demie de libre. Donc souvent, je m'arrête. C'est ce que je vais faire demain. Tu vois, demain à midi, j'arrête. Et puis je reprendrai que mercredi matin, juste avant d'aller en Corée.
D'accord. Et tu as voyagé beaucoup? Tu t'es tracé une roadmap ou alors tu restes tant que t'es bien et tu déménages après? Comment t'as décidé de faire?
Alors, en fait, c'est simple. Moi, je connaissais déjà un petit peu le Japon, notamment Tokyo. Et je sais que Tokyo, c'est pas une ville qui me correspond, ça bouge trop. C'est pas quelque chose que j'apprécie. On avait parlé d'Osaka, qui est une ville. J'allais dire plus dynamique, pas vraiment plus dynamique, mais disons que c'est peut-être plus facile de faire des rencontres, c'est un peu différent. Et j'ai l'impression que c'est pas. Peut-être que les Japonais sont un peu plus. Je dirais pas accueillants, mais disons que c'est plus facile d'aller vers les autres et discuter. Le Japon, c'est quand même un pays qui est très particulier, les normes sociales sont totalement différentes. On m'a toujours dit, tu pourras jamais avoir d'amis ici. On me l'a répété pendant des mois et des mois avant de venir. Et en fait, j'ai de la chance, je pense, d'être arrivé à Osaka, d'avoir rencontré des gens très rapidement les premières semaines. C'est des gens qu'aujourd'hui je vois toutes les semaines.
D'accord.
Je m'entends très bien. Et donc j'ai décidé plutôt de faire d'Osaka mon pôle. Parce qu'en fait, il se trouve au milieu du Japon.
D'accord.
Il y a 2 aéroports. Un qui permet d'aller partout au Japon. Et un autre international.
D'accord.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rester à Osaka. Mais par contre, j'ai passé un mois à Kyoto. En septembre, je pars 15 jours à Hawaï. Là, je pars en Corée. Voilà. En fait, je reste à Osaka, mais voilà, je me laisse un mois par-ci, un mois par-là. Après, je vais aller sur les îles paradisiaques d'Okinawa pendant un mois et demi aussi au mois de mai. Donc voilà, oui, non, ça...
Bien.
Ouais, voilà.
Bien.
Oui, non. Je travaille quand même, j'ai de la chance. Hein.
Ouais. Tu fais attention aux soucis de connectivité, rester toujours... est-ce que tu fais gaffe à ça? Est-ce que si tu es dans un hôtel, t'es le Wi-Fi, la 4G, etc. Enfin, comment ça se passe?
Alors, j'ai de la chance d'être au Japon, qui est un pays qui est quand même ultra connecté.
Oui, bien sûr.
Et donc, tous les logements, sans exception, ont une connexion Wi-Fi. La plupart ont la fibre. Là, par exemple, je suis dans une très, très, très vieille maison en bois, vraiment traditionnelle, avec les portes coulissantes, etc., les tatamis au sol.
D'accord.
Là, il y a une très, très bonne... Enfin, la connexion... Bon, là, ça a coupé tout à l'heure, mais pourtant, la connexion est vraiment bonne.
Ouais, bah, nickel.
Donc voilà, et pourtant c'est très ancien, je suis en pleine campagne, parce que là du coup j'ai préféré me retirer, après vraiment ça fait 2 mois qui était assez intensif, après j'ai préféré me retirer quelques jours, vraiment c'est la campagne pour le coup.
D'accord.
Dans la préfecture d'Osaka, mais je suis paumé, je dois marcher 20 minutes pour avoir le moindre petit combini, donc la moindre petite supérette, au Japon il y en a toutes les 3 minutes à pied, donc vraiment,
d'accord.
Là, voilà, je suis un peu, mais j'en avais besoin, parce que j'ai aussi besoin, toi, par moment de me poser un petit peu.
C'est une retraite,
toujours.
C'est une retraite personnelle.
Ouais.
Alors, une introspection, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, j'adore passer du temps avec les autres, mais j'aime bien aussi prendre du temps pour moi. Et quand, enfin, je pense que je suis plus productif quand j'entrecoupe mes moments de travail par des petits moments comme ça.
D'accord.
Et puis, du coup, j'ai pris un logement qui est un peu paumé, mais qui n'est pas très loin de l'aéroport, parce qu'en fait, il se trouve que je prends 8 vols différents ce mois-ci. Donc voilà, ça me pose problème d'un point de vue écologique, mais c'est un autre sujet, mais je n'ai pas trop le choix, parce que les transports sont hors de prix au Japon et l'avion coûte moins cher.
D'accord.
Que le train, par exemple.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis un peu paumé et je suis pas très, très loin de l'aéroport non plus. Donc, ça me permet de là, en fait, je suis à 20 minutes de l'aéroport. Il y a une ligne directe. Donc, voilà, ça me permet quand même, comme j'ai beaucoup de déplacements, de pouvoir y aller facilement.
D'accord. La barrière de la langue
C'est un vrai problème.
Ouais.
Alors, c'est pareil, on m'avait dit les Japonais parlent pas anglais, c'est faux. Tous les Japonais que j'ai rencontrés. Alors, après, je parle avec des jeunes Japonais en général, qui ont entre 20 et 30 ans. La plupart parlent anglais.
D'accord.
Mais ça m'est arrivé, je suis allé dans la forêt de bambou à Kyoto, et il y a une espèce de petit papy, je sais pas, peut-être d'au moins 70 ans, qui s'arrête et commence à me parler d'un anglais, mais parfait.
Mm-hmm.
Donc j'étais un peu surpris au départ, et au final, on a passé une heure à discuter, et il m'a payé un coup. Enfin, vraiment, voilà, il y a des petites rencontres comme ça qui sont surprenantes. Donc je pense que non, en fait, c'est juste que les Japonais ont peur de parler anglais, mais une fois qu'on les lance un peu, ils sont partis. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai jamais vraiment très bien parlé anglais. Et là, en 3 mois, j'ai progressé en anglais d'une manière assez folle. J'aurais jamais cru pouvoir tenir pendant 3-4 jours avec des amis comme ça et parler toute la journée sans aucun problème. Donc ça, c'est cool. Par contre, le japonais, il faudrait que je m'y mette. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que le temps que j'ai de libre, je veux pas vraiment l'investir dans le temps pour l'apprentissage. Je préfère profiter. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte d'apprendre quelques mots, mais clairement, je ne suis pas capable d'avoir une conversation en japonais.
D'accord.
Aujourd'hui.
À part la culture manga et ce que j'appelle moi les japonaiseries, mais j'en ai regardé, et par contre, j'interdis pas, mais je veille à ce que ma fille en regarde le moins possible. Mais c'est juste parce que c'est pas ma culture. Pourquoi le Japon? Pourquoi alors, pas ailleurs, quoi?
C'est drôle que tu précises les mangas parce que tout le monde me dit alors t'es là pour les mangas et les animés. Bah pas du tout,
non.
J'aime pas les mangas, j'aime pas les animés.
C'est vrai? Bah alors.
Donc les seuls animés que je regarde c'est des films Ghibli, et moi je vois plus ça comme un film d'animation un peu artistique plutôt qu'un manga, enfin qu'un animé.
D'accord.
Donc ouais, non, je suis un peu des, enfin moi là, j'ai lu 2 mangas dans ma vie et les animés je supporte pas. Enfin vraiment c'est quelque chose qui, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes j'ai envie d'éteindre la télé, quoi. C'est vraiment un truc que j'aime pas.
Alors pourquoi le Japon? Pour la culture, pour le traditionnalisme, pour les arts martiaux, pour
Alors c'est un pays qui m'a toujours plutôt attiré parce que je trouve que d'un point de vue historique c'est hyper riche et très très intéressant.
Bien sûr.
Et puis du coup j'étais venu à Tokyo il y a quelques mois, et là je me suis pris une vraie claque dans la tête. En fait je me suis dit c'est fou parce que le respect des gens, cette culture de vouloir toujours le client est roi, etc. C'est quelque chose que j'ai envie juste de... Alors, je pourrais pas rester... Il y a tellement de choses qui me dérangent au Japon que je ne me vois pas rester là sur le long terme. Mais je me dis, j'ai envie de découvrir ça et j'ai envie d'être dans une culture qui me dépayse totalement. Parce que j'avais envie de quitter mon travail, etc. J'avais réfléchi à l'Australie, au Canada. En fait, je me suis dit, ça sert à quoi d'aller pendant 1 ou 2 ans dans un pays qui, au final, bon, bah, il parle anglais, donc déjà, c'est pas non plus si dépaysant que ça. Et surtout, au final, ils ont une culture assez occidentale.
Oui.
Donc, j'avais envie de me prendre une vraie claque.
D'accord.
Donc c'était soit du monde avec des pays parfois un peu compliqués, soit un an au Japon, en sachant qu'en France, il est assez facile quand on a moins de 31 ans d'avoir un visa pour le Japon pour un an.
Ouais.
Donc je me suis dit, allez, je tente, je fais un dossier, c'est passé très facilement. Je suis allé à l'ambassade, on m'a validé mon visa en 1h30, donc voilà.
C'est chouette. Alors, on va revenir sur ton livre, le chapitre 17, en fait, soyez juste ambitieux, arrêtez de vous dévaloriser. C'est un conseil?
Ouais, parce que, en fait, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, ce livre, j'ai commencé à rédiger en juin, j'avais déjà commencé à donner des cours à l'Université de Bordeaux. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les étudiants, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, c'est bon, bah, moi, j'aimerais bien faire ça. Mais en même temps, faudra que je vois parce que je sais que j'ai pas forcément les compétences. Mais non, t'as envie. Donc, tu vas te donner les moyens et tu vas faire en sorte d'y réussir. Et je sais qu'au fond, soit. Quand on est motivé, ça change tout. Je suis passé des études où, malheureusement, entre guillemets, je venais pour faire de la communication et je me suis retrouvé à faire du code et du développement, chose que je détestais. Quand on me demandait de faire du PHP ou de la base de données, tu vois, c'est vraiment pas mon domaine.
D'accord.
Et je me suis accroché et finalement, j'ai réussi. Et là, clairement, je me suis dit, OK, je vais m'accrocher vraiment à la com et à ce que je veux faire, au community management. Et au final, en faisant ça, je me suis vraiment passionné pour le community management. J'ai redoublé d'efforts pour développer mes blogs, pour essayer de générer des revenus, etc. Mmh. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment cette partie-là. Et vraiment, j'ai trouvé une motivation dans ça. Yeah. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment trouver le chemin qu'on va suivre. Et une fois qu'on l'a, ne pas le lâcher. Et sincèrement, après, je pense que vraiment, on peut faire de belles rencontres et avoir de belles opportunités.
Bien sûr.
Il faut qu'on est motivé et pas s'arrêter aux études. Parce que aujourd'hui, si je rencontre un professionnel, je parle de mes diplômes, mais je n'en parle jamais en fait. Parce qu'on ne me demande jamais. On me demande qu'est-ce que tu as fait à côté et éventuellement mon ancien poste de social media manager, mais sinon, on ne me demande vraiment jamais mes études. Quoi.
Mmh, ok, ça c'est.
C'est révélateur.
En fait. Oui, bien sûr, c'est clair. Alors, il y a un truc, dans le chapitre 19, le titre, c'est un peu de fierté en regardant derrière moi, et là, c'est assez clair que tu peux être fier. Et il y a un truc, concernant ton livre, tu mets, il est un peu décousu, mais en même temps, je voulais quelque chose qui me ressemble, alors il est rédigé d'un coup. Tu as mis combien de temps à écrire ce... Alors, moi, ça fait 822, alors je sais pas, je suis à la page 624 sur 822, mais comme c'est un format Amazon un peu spécial, c'est un petit peu voilà, particulier, je ne sais pas combien de pages... Voilà, combien de pages il fait pour de vrai?
Parce que c'est rigolo parce qu'en fait j'ai tout vendu, j'ai plus aucune affaire. J'ai juste un ordinateur et des vêtements, c'est tout ce qui me reste de ma vie de France et j'ai qu'à pouvoir voyager avec et parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Du coup, il y a 103 pages.
D'accord, 103 pages. Donc,
j'ai écrit de manière. Quand même pas toute petite, mais voilà, c'est.
Non, c'est un travail vraiment respectable, hein, mais. Je vais y revenir, mais c'est quand tu mets que c'est un peu décousu, tu voulais quelque chose qui te ressemble et rédigé d'un coup. Alors, 103 pages, tu as fait un plan, tu as fait des chapitres avant, tu as. Non, c'est une grande lettre.
En fait, c'est ça. Voilà. Je suis arrivé, pour te dire, je rentrais de soirée. Il était 3h30 du matin. Et j'avais mon iPad sur, quand je suis arrivé. Et je me suis dit, allez, j'ouvre page et je commence à écrire un truc. Et puis. Là, c'était après avoir reçu une proposition d'une maison d'édition, etc., que j'avais refusée. Mmh. Je crois que je raconte.
Oui, bien sûr, oui.
Et je me dis, voilà, je veux quelque chose qui me ressemble. Parce qu'en fait, depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours fait des choses vraiment par passion. J'ai lancé un site, puis je l'ai arrêté. Puis finalement, j'ai décidé de faire ces études-là, puis finalement ça. Et puis finalement, j'ai dit, OK, je vais démissionner, je vais partir à l'étranger. Et je me suis jamais fixé aucune limite, parce que pour moi, il n'y a pas de limite. On fait ce qu'on veut. Et les gens qui vous disent, qui me disent oui non mais moi je suis bloqué, j'ai ça dans la vie, non mais moi j'ai ça, non, si tu veux vraiment il n'y a pas de limite. Alors oui, c'est pas facile, oui, il va falloir se mettre des coups de pied au cul, mais je pense sincèrement qu'on peut faire quelque chose. Donc voilà, j'ai écrit chapitre après chapitre sans jamais, j'écris le titre du chapitre et ensuite je tapais vraiment et je m'arrêtais quand je pensais avoir plus dit de ce titre là
le début, la fin et tu reviens dans le milieu.
Exactement.
Ouais, c'est une bonne méthode, je connais ça. Il y a un site, c'est. Ouais, il y a un site, c'est marrant parce que. C'est vers la page 80 et des bananes dans le chapitre 19, je crois. Sur l'un de mes sites internet, vous tapez le Konami Code, vous arrivez sur une page de fond qui vous décrochez la rétine, le fameux Konami Code des années 70, de Bandai, je crois, ou de Konami, enfin justement. C'est un plugin WordPress qui fait ça, je connaissais pas, moi.
Ouais, c'est un plugin WordPress. Alors, j'aurais pu le coder, mais j'avais pas envie. J'aurais pris très longtemps parce que les études de code, c'était vraiment pas mon truc, donc voilà. Et oui, donc c'est un plugin WordPress qui fait ça parce que j'ai toujours un côté vraiment très second degré.
Ah, faut que je le trouve. Faut que je trouve ce plugin. Ça, c'est énorme.
Je pense qu'il s'appelle Konami Code. Hein,
d'accord. Comme ça. Et c'est sur quel site?
C'est sur IndiegoBuzz.
D'accord, ok. Bon, on regardera voilà, tout ça. Je mettrai les liens.
C'est une vidéo de moi qui twerk sur le capot d'une voiture pendant un événement presse en Allemagne. Donc, tu vois, c'était. En plus, c'était un truc pour mes blogs. Mais voilà, je trouve ça fun de mettre un petit truc comme ça, c'était drôle.
Ouais, alors, il y a un truc, c'est le chapitre 22, se séparer de tout avant de partir. Et là, tu fais un constat. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'allumer mes lumières avec ma voix, d'avoir des Dutch buttons, etc. Je vends tout avant de quitter mon logement. Ouais, t'as réellement tout vendu, quoi. Enfin, quasiment.
Ah oui, pour te dire, vraiment, là, ce que j'ai là... Alors, la seule chose que j'ai laissé chez mes parents, c'est ma PlayStation 4 et mon PlayStation VR. C'est tout ce que j'ai laissé chez mes parents. Là, vraiment, j'ai juste un sac à dos. Je suis parti avec 17 kilos dans mon sac à dos. Au fil des semaines au Japon, je me suis rendu compte que c'était trop. Aujourd'hui, j'ai plus qu'un sac à dos de 10 kilos. Et un petit sac à dos que je prends. Donc, je me suis séparé de 7 kilos supplémentaires au Japon. Donc ouais, non, là tu vois, je regarde autour de moi parce que finalement j'ai que ça.
C'est un inventaire facile, quoi.
Ouais, c'est ça, et en même temps je me suis jamais senti aussi vide du coup.
Ouais.
Et ça c'est assez fou comme sensation. Ouais, c'est fou. Enfin, pour moi c'était impossible, je suis quelqu'un qui gardait tout depuis des années. Enfin, tu vois, quand je suis parti de Bordeaux, je faisais le tri dans mes vêtements, donc j'avais quand même 22 ans. Et je me trouvais à enlever des vêtements, c'était du 12 ans. Et pourtant, ça faisait déjà 4-5 ans que j'avais vécu chez mes parents. À ce moment-là, j'aurais déjà pu faire le tri, tu vois.
Je vais me servir de ton exemple auprès de ma femme qui est en train de nous écouter à côté. Une chose est certaine, c'est que j'ai bien fait de ne pas toujours avoir écouté ce qu'on m'a dit. Sinon, il m'aurait été peut-être impossible de réaliser ce que je m'apprête à faire. Ouais. Il y a un esprit de revanche quand même.
Pas revanche, parce que j'ai jamais eu le sentiment que j'avais quelque chose à prouver. Ou j'ai toujours cru, alors ça peut être un peu prétentieux dit comme ça, mais j'ai toujours cru que c'était possible. Et qu'en tout cas, j'allais pouvoir le faire. J'ai jamais été quelqu'un de très carriériste. Effectivement, il y a 2-3 grosses boîtes qui éventuellement me feraient rêver, dans lesquelles je me dis je pourrais tout quitter pour aller bosser dans ces boîtes-là. Ouais. Mais c'est pas, voilà, moi, ma motivation. Ma motivation, ça n'a jamais été de gagner de l'argent ou de travailler dans une grosse boîte.
D'accord, ok, ouais.
Donc voilà. J'ai pu avoir des belles propositions de postes par le passé que j'ai refusées systématiquement. Alors effectivement, il y a toujours 2-3 boîtes qui me font rêver, dans lesquelles je dirais oui pour aller travailler, je serais prêt à tout quitter pour ça. Mais je me suis toujours dit, il vaut mieux que je sois heureux au quotidien, il vaut mieux que je gagne 800 euros par mois et que ce soit la galère tous les mois et que je me prive de 2-3 trucs plutôt que je gagne assez bien ma vie comme c'était le cas en France. Et pour au final avoir des horaires très... je vais me lever, je vais au boulot, parfois je fais des heures sup et puis au final je rentre chez moi et puis c'était un peu la routine. Voilà, moi je veux me dire ok, bah là par exemple tu vois je suis ici, si demain j'ai envie de prendre un billet et que je pars en Australie, bah demain je pars en Australie quoi, personne pourra m'empêcher de le faire. Je dis ça parce que il y a une heure j'étais en train de regarder les billets pour l'Australie parce que c'est un pays que j'ai envie de découvrir, tu vois.
La Nouvelle-Zélande, voilà. La Nouvelle-Zélande me plairait bien quoi.
C'est un peu plus cher, du coup, ouais. J'ai regardé aussi.
Ah, tu vois, ce sont quand même des réflexions de vieux, quoi. De vieux baroudeurs. À 23 ans, tu parles comme moi quand on est 46.
Ouais, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que... Alors, je pense pas que ce soit le fait d'être vieux. On me dit souvent que je suis mature, mais je pense pas du tout, je suis un vrai gamin. Et je pense que tous les gens autour de moi le savent à quel point je suis un vrai gamin.
T'as une tête de bon gros, bébé, sympatoche, ouais. De bisounours, quoi. Hein.
Et je pense que justement, c'est ce côté enfant, et pas du... Enfin, je pense que c'est un petit peu différent mon discours, mais j'ai un côté très enfantin où je suis prêt à... Je réalise pas du tout les risques, je suis prêt à tout quitter, à partir. Et ça, y a des fois où je me dis, là, Romain, faudrait se calmer, tu vois. Enfin, je parle avec un ami d'Hawaï, je rentre le soir même, je prends des billets, je me dis, allez, je pars à Hawaï, quoi. Et là, je me dis, bon... en réalité, Roméo, fais gaffe quand même, parce que ce mois-ci, t'as pas gagné autant que t'aurais espéré. Mmh, mmh. Donc, j'ai besoin de se faire plaisir, mais à un moment donné, il va aussi falloir manger, payer le transport, quoi.
Ouais.
Donc, voilà, je pense que parfois, juste, il faudrait que je sois un peu plus réfléchi, mais en même temps, c'est cette folie-là qui me donne envie de continuer, qui me fait vibrer, qui est vraiment ma passion aujourd'hui, quoi.
Ok. Dans 9 mois, tu rentres. Roméo, il fait quoi dans 3 ans?
Dans 9 mois, je rentre pas.
Ah.
Là, t'es le premier à qui je dis ça. Même ma famille espère que je rentre. Mes parents espèrent que je rentre. Mais non, très sincèrement, si j'arrive encore à développer ce que je veux développer, j'ai notamment un projet vraiment que j'espère pouvoir développer. Effectivement, oui, dans 9 mois, je rentre pas. Alors, je dis pas que je vais rester au Japon. Ça dépendra de plein de choses. Peut-être que je resterai au Japon, je sais pas. J'ai une chose qui me fait vibrer, j'en parle dans le livre, c'est l'éducation. Pourquoi pas donner des cours au Japon, c'est quelque chose qui me motiverait peut-être. Je sais que c'est plus facile en fait quand on devient prof au Japon d'avoir un visa pour rester, donc c'est aussi une solution pour rester ici.
D'accord.
Mais en même temps, si je suis prof, ça veut aussi dire que souvent on n'est pas prof à plein temps, donc ça veut dire que je peux aussi continuer mes activités à côté.
D'accord.
Et puis le fait d'être prof, c'est aussi que les élèves sont en vacances, les professeurs aussi, et donc à peu près le seul domaine où on peut avoir des vacances au Japon vraiment un peu plus que la moyenne, c'est l'éducation. Et moi, je veux garder cette liberté-là et me dire, ok, je veux quand même avoir quelques vacances pour partir en voyage.
Ok, mais Roméo va vieillir, une famille un jour.
En fait, je suis persuadé que quand je rencontrerai quelqu'un, ce sera quelqu'un qui sera à peu près dans la même mentalité que moi. En tout cas, c'est important. Bien sûr, ouais. Et pour moi, je pense qu'avoir un enfant, c'est pas un problème pour voyager. Je pense que Enfin, tu vois, au contraire, je pense que justement, ce qui va me faire, ce qui va être enrichissant dans ma vie, c'est que là, je suis jeune, je peux rencontrer des gens, plein de gens différents, apprendre beaucoup de choses, et c'est ça qui me poussera un petit peu à, enfin, je pense à avoir une vision de la vie particulière, tu vois.
D'accord.
Et j'ai déjà une vision, je pense, différente, et souvent, quand je parle avec des amis, ils me comprennent pas forcément, mais au fond de moi, je pense vraiment que sincèrement, là, je peux pas être plus heureux, quoi. Enfin, tous les matins, je me lève et je me dis, c'est ouf ce que je suis en train de vivre, et c'est juste le début, j'en suis sûr.
Ah ben, c'est énorme. Alors, il y a un truc étrange, voilà, donc hier, on a lancé ce petit concours pour ensemble faire gagner des exemplaires de ton livre. On a eu un paquet de réponses. Il y a une team gros Nemo, quoi. T'as vu l'armée de...
en fait, c'est quelque chose que... C'est vrai que je m'y attendais pas. Pour tout dire, j'ai sorti ce livre et on m'avait dit en auto-édition t'en vendras 60. Et alors pour moi, 60, c'est déjà beaucoup parce que on m'a dit, je sais plus, il y a seulement 3 ou 4% des livres qui dépassent les 200 ou 320. Enfin, voilà, on m'a sorti des chiffres, on m'a dit on s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout de ta vie, en fait. Et j'avais dit oui, non. Ah, oui, on s'en fout, on disait on s'en fout de ta vie. Et moi, je disais, mais c'est pas ma vie que je vais raconter dans ce livre. C'est juste dire aux gens, mais kiffez votre vie, faites ce que vous aimez tous les matins, levez-vous avec la pêche. Et si aujourd'hui vous vous levez et que ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas ça la vie. On n'est pas formaté pour aller travailler, gagner de l'argent et faire un truc qu'on aime pas. Effectivement, parfois, il y a des chemins de vie qui nous bloquent.
Il y a des contraintes.
Et ça, je l'entends. Mmh. Mais ce livre-là, il s'adresse aux gens qui peuvent peut-être espérer changer de voie, faire quelque chose d'autre. Et ça dépasse le blogging. C'est pour ça que quand je dis petit blogueur deviendra grand, c'est pas le guide pour devenir blogueur. C'est le guide, je pense, pour trouver ce qui, dans la vie, te motive, te donne envie de continuer et te vraiment, tous les matins, tu te lèveras et tu te diras, putain, c'est ça que je voulais faire depuis des années.
D'accord. Alors, depuis ton road trip, le début de ton road trip, tu sens une croissance de ton audience, par exemple, sur Twitter, le nombre de followers, machin, ou tu t'en fous et tu continues ton chemin, ou tu es attentif à ça?
Je la sens très fortement sur Instagram.
Bah oui.
Instagram. C'est particulier parce qu'Instagram, j'aime pas, tu vois. Et en même temps, aujourd'hui, sur Instagram, je reçois une trentaine de messages par semaine, voire un peu plus, 40, de questions très précises. J'enlève les trucs, voilà. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai des gens qui m'ont demandé des road trips, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner pour faire guide. Enfin, voilà, j'ai plein de choses comme ça. J'essaye de répondre aux gens, etc., en plus des mails. Mm-hmm. Je sens qu'il y a une vraie volonté de découvrir le Japon. Le truc, c'est qu'il faut pas oublier que moi, mes revenus de blogueur, c'est pas Merci Japon qui me les rapporte. Non. Je fais finalement encore peu de visites. Et c'est, enfin voilà, moi aujourd'hui, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc j'y passe du temps et j'essaye de développer cet aspect-là. Mais aujourd'hui, Merci Japon, ça reste avant tout une passion. Mm-hmm. Et c'est un moyen de garder une trace et de partager ce que j'aime. Mais faut bien comprendre que je peux pas me permettre de passer 10 heures par jour sur Merci Japon. Parce qu'à la fin du mois, je peux pas manger.
Bien sûr, je comprends tout à fait. Mais Instagram ne te rapporte rien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour toi, en parlant objectif business, de monétiser ton audience Instagram vers Terra House ou ce genre de choses, enfin, cumuler les deux pour ramener ton flux Instagram vers les autres sites? Est-ce que tu as encore cette démarche marketing malgré ta démarche touriste?
Oui. Alors, enfin, je suis dans une démarche. Je profite et je suis en fait un peu de tourisme. Mais en même temps, faut pas oublier que cette activité-là, ça reste une activité professionnelle et que du coup, mon but effectivement, c'est de continuer à accroître mes revenus pour éventuellement faire ça le plus longtemps possible.
Bien sûr. Voilà.
Effectivement, c'est une passion, je le dis, mais s'il y a pas d'argent, la finalité, ça reste quand même ça. Alors, je veux pas. Moi, je suis pas du genre à vouloir gagner très très bien ma vie. Hein. Mmh. Du moment que j'ai le minimum et que j'ai ce qu'il faut pour payer mes taxes, machin, ça me va. Mmh. Mais juste, je sais plus où j'en étais. Du coup, je me suis perdu. Ah oui. Sur la finalité de comment gagner de l'argent. En fait, j'ai lancé Trip Pas Cher, donc qui est aussi chez EuroWH.
IPFix.
Pourquoi?
IPFix aussi.
Oui. Trip Pas Cher qui est chez IPFix. En fait, c'est un site où je partage des bons plans. Tous les jours, je donne trois destinations vraiment pas chères au départ de la France ou de la Belgique. Et ça, c'est des biens affiliés.
D'accord.
Il faut savoir, au moment, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook et sur Twitter, mais paradoxalement, j'ai quand même généré le mois dernier 5000 clics affiliés grâce à ces comptes-là.
D'accord.
Et donc, 5000 clics, je sais pas comment c'est possible, parce qu'en fait, il y a des gens qui les partagent à leurs amis en privé, etc. Donc, ça génère beaucoup de clics. Derrière, il y a des billets d'avion qui sont achetés. Et du coup, derrière, je reçois de l'argent. Alors, il y a un problème, c'est qu'entre le moment où le billet d'avion est acheté et le moment où je reçois l'argent de l'affiliation, il y a jusqu'à 90 jours.
Ah, la vache.
Donc, toi, j'ai lancé le site en novembre, j'ai touché mon premier virement cette semaine. Et donc, c'est le virement début du lancement du site. Donc, des deux premières semaines, j'ai touché 50 euros. Parce que les deux premières semaines, j'ai fait 50 euros. Mais déjà, c'est fou de se dire que les deux premières semaines du lancement du site, j'ai fait 50 euros. Pour moi, tu vois, enfin...
Ouais, mais... Ok, 50 euros, c'est... ça te permet de faire quoi au Japon? Et ça te permet de... Ta journée japonaise, ça coûte combien?
Alors, déjà, 50 euros, je paye des charges, c'est une activité qui est déclarée.
Ouais, bien
sûr. Donc, j'ai 25% qui partent, déjà, sur les 50.
Oups.
Voilà. Ensuite, l'argent que je récupère, ben, c'est simple. Alors, j'ai de la chance. C'est-à-dire que mon année, j'ai déjà payé plein de Airbnb. Je l'avais fait par avance quand je travaillais en France. J'avais prévu plusieurs Airbnb dans l'année.
D'accord.
Parce qu'en fait, si on prend un mois de Airbnb, on a une grosse réduction. Souvent, par exemple, Airbnb dans lequel je suis là, je l'ai pris un mois, alors qu'au final, je vais juste y rester 16 jours. En fait, je l'ai pris un mois parce que quand on fait des longues réservations sur Airbnb, on a des grosses réductions.
D'accord.
Donc là, j'ai eu 65% de réduction sur ce logement-là.
Ouais.
Donc là, je paye quand même 240 euros pour un mois, ce qui est ridicule.
Ouais.
Et ça n'a rien à voir parce que les prix des logements au Japon, c'est hors de prix. Hein. C'est vraiment.
D'accord.
C'est très cher. Mm-hmm. Donc voilà, donc je profite de petites astuces comme ça et au final, j'y reste que 15 jours.
Donc au bout de 15 jours, au bout de 15 jours, tu t'en vas?
Alors non, en fait, il se trouve que là, du coup, j'y reste 8 jours. Après, je pars 3 jours en Corée, je reviens un jour.
D'accord.
Et puis je pars 5 jours à Niigata. Mais du coup, c'est des trucs où je garde ce logement-là. Enfin, il n'y aura personne, tu vois, mais ça me coûtait moins cher.
Bien sûr, d'accord,
voilà,
ok.
Je fais souvent des réservations d'un mois, et après, si je pars à Hawaï, si je pars ailleurs, bah, je reprends des Airbnb de 3 jours, ou 4-5 jours, ou plus, parce qu'en fait, ça me coûte moins cher.
D'accord, ok. Bon, c'est une bonne chose.
J'essaie vraiment d'optimiser tous les coûts, parce que le coût de la vie au Japon est cher, tout autant qu'en France, voire plus, ça dépend. Par
d'accord.
exemple, les transports, le mois dernier, j'en ai pour 175 euros de transport en commun.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose dont je ne m'y attendais pas. Donc voilà, là, je me dis, tu vois, maintenant. Quand bah là, je dois aller faire les courses, bah, hier, j'ai fait 30 minutes de marche. Avant, j'aurais pris le transport. Mais ça coûte tellement cher que c'est des petites choses comme ça où j'essaie d'économiser. Parce que juste prendre le train, bah, c'est 2 euros aller, 2 euros retour. Mais ça fait 4 euros, tu vois. Et si je
prends
3-4 fois par semaine pour aller acheter 2-3 trucs, pour aller... bah, au final, à la fin de l'année, j'aurais dépensé 300 balles.
D'accord, ouais, effectivement. Donc, voilà. Si vous voulez être accompagné dans des campagnes social ads, je suis aussi disponible, si vous voulez. Bon, voilà, le message est passé. Tu cherches toujours du taf quand même?
Alors, non, en fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester en place et qui a vraiment du mal à faire quelque chose qui toujours la même chose. Donc, en fait, si j'ai 10 blogs, ce n'est pas parce que j'ai envie d'avoir plein de blogs ou alors j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. C'est parce que j'ai envie de traiter de plein de sujets et de faire plein de choses différentes. Et comme aucun blog est identique, bah, du coup, je parle de plein de sujets. Et du coup, tout est différent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive. J'ai pas envie de refaire du social ads à plein temps parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant un certain temps en agence web.
Mm-hmm.
J'ai apprécié faire ça. Aujourd'hui, je veux plus faire ça. Mais par contre, une mission ponctuelle de temps en temps, faire des sites internet, c'est des choses que je fais pour des clients.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose que j'adore faire. Un site tous les 2-3 mois, ce genre de choses, c'est vraiment des choses que j'adore faire, en fait.
D'accord.
Et que je trouve, pour le coup, hyper intéressante et enrichissante.
D'accord.
Voilà.
Alors, à bon entendeur. On va revenir... Qu'est-ce que tu penses de... Alors voilà, c'est complètement personnel, hein, pour le coup, ça sera off ou pas. Qu'est-ce que tu penses d'IPFIX? Qu'est-ce que tu penses de la plateforme? Comment ça se passe selon toi? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Enfin, voilà.
Alors, pour la petite histoire, j'ai eu en 9 ans de blogging, j'ai enchaîné des hébergeurs. Beaucoup d'hébergeurs gratuits au tout début. Forcément, j'avais 13 ans et pas de carte bancaire, donc je t'avoue. C'est une catastrophe. Et puis ensuite, je suis passé sur des hébergeurs pas chers. Un avec lequel j'ai eu des gros problèmes, des lettres d'avocat, etc. Puis j'ai un mauvais article sur eux. Mais j'avais jamais... Enfin, du coup, je vais pas citer leur nom.
Bien sûr.
Tu comprendras. mais il y a toujours l'article sur mon blog. Voilà. En fait, parce qu'après enquête, je me suis rendu compte qu'ils avaient caché leur adresse, que finalement, ils sont dans un paradis fiscal, enfin bref, avec une fausse boîte postale, etc. Bref. Donc ça s'est très mal passé, ils ont changé de nom, moi j'ai mis à jour mon article avec le nouveau nom, voilà, parce que voilà, je suis quelqu'un qui quand c'est de la merde, c'est de la merde, ben, je le dis, quand c'est bien je le dis aussi, mais quand c'est de la merde je le dis. Donc voilà, donc là vraiment je me suis dit putain ça me fait chier quoi. Et puis après je suis parti chez OVH qu'on connaît tous, je me suis rendu compte qu'en fait chez OVH il y avait des problèmes aussi. Et c'est pas parce que tu payais un peu plus cher que la qualité était là. Et alors va joindre quelqu'un chez OVH.
Oui, merci.
Voilà. Parce qu'en fait, du coup, je bossais aussi en agence web, et nos clients avaient des serveurs dédiés, avaient des choses aussi chez OVH. Donc j'avais le côté pro en agence où le client t'appelle et tu te dis putain, mon site il est HS. Sauf que toi, bah, t'es prestataire de service qui gère le site, t'es pas l'hébergeur. Donc bref, voilà. Donc je me suis dit ok, j'ai cherché, j'ai enchaîné avec un autre hébergeur, j'en ai testé d'autres, de sympas, d'autres de moins bien. Et puis bah, je suis tombé sur EuroWH sur Twitter en faisant un tweet. C'est Web, je sais pas si tu
oui,
vois.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr.
De Sofia, quoi. Voilà. Qui m'avait conseillé EuroWH à l'époque, ouais. Qui ensuite est devenu fixe. Et puis, en fait, je me suis dit, mais comment c'est possible avec un prix comme ça d'avoir quelque chose d'assez cohérent? Enfin, très honnêtement, je me suis dit, voilà, bon, c'est un peu. Bon, je vais tester, quoi. Je passe un site, puis bah, au bout de 6 mois, pas un problème. Enfin, si, j'avais eu un petit souci, mais c'était lié de ma faute à une modif. Et j'ai envoyé un message et le service client avait réparé le truc, alors c'était mon problème, tu vois. Enfin, c'était moi qui avais fait l'erreur. D'accord. Je me suis dit, putain, c'est quand même cool d'avoir des gens à dispo. Puis j'ai passé un deuxième site jusqu'à me rendre compte. Et en fait, ça, quelque chose qui pour moi était essentiel parce que j'étais travaillé à ce moment-là, mais j'étais toujours dans la recherche d'économies, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je peux héberger 4 sites sur le même hébergement, bah, ça me fait faire des économies au final. Parce que entre payer 50 balles par an d'hébergement, ce qui est pas grand chose, 50 balles, hein, je suis d'accord. Parce qu'il fut un temps en fait où j'avais aussi il y a quelques années pour mes sites un VPS sur lequel j'avais plusieurs sites. D'accord. Alors là c'est pareil, c'est-à-dire que moi le réseau, je l'ai étudié dans mes études, mais c'est pas quelque chose que j'adore. Et quand il y avait un problème, c'était la merde. Enfin, franchement, les lignes de commande là, c'est bon quoi, j'en avais. Voilà. Et du coup, voilà, je veux vraiment quelque chose de simple et qui tienne la route. Et en fait, bah, EuroWH avait tout ça. Donc, j'ai passé un site, deux sites, trois sites, et puis après quatre. Et puis finalement, un jour, j'ai eu un problème, j'ai envoyé un message sur Twitter, j'ai eu une réponse immédiate. Là, je me suis dit, ok, moi, je suis un gros utilisateur de Twitter, hein, j'y passe 3-4 heures par jour. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui faut que j'arrive à me déconnecter de Twitter. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est simple, je pense que là, j'ai l'hébergeur que je veux. Et puis après, il y a le changement de nom. Là, je me suis franchement dit, allez. Ça passe en ligne, pour être tout à fait honnête. Hein. Ça passe IPFix. Je sais que c'est toi qui reste derrière, mais en même temps, tu vois, il y a quand même le doute de se dire est-ce que le service va changer? Finalement, le service n'a pas changé du tout. la qualité reste la même. Les tarifs, alors effectivement, c'est pas très très cher aujourd'hui, mais si on était ancien client, on garde les mêmes tarifs.
Oui.
Donc là, pour le coup, bah, moi, ça me va aussi. Quand on a un problème, bah, t'es toujours dispo. Et en fait, je me rends compte que. Bah, les serveurs sont pas plus hors ligne que d'autres hébergeurs beaucoup plus chers.
Bah, voilà. Bah, c'est super.
Donc, le cPanel, pour le coup, est très complet parce que j'ai déjà eu des hébergeurs où le cPanel, il y avait beaucoup moins de, on avait accès à beaucoup moins de choses à l'intérieur, qui étaient plus guidées en tout cas. J'ai le sentiment que chez IPFix, on reste libre de faire ce qu'on veut avec son site internet. Et ça, c'est quand même important. Parce que quand on est à un hébergement mutualisé, ce n'est pas toujours le cas.
Non,
chez OVH, beaucoup moins d'options, par exemple.
Ouais, d'accord. Ben, OVH, malheureusement, le seul reproche, je ne suis pas un énorme utilisateur d'OVH, hein, j'y suis client, évidemment, comme tout le monde, c'est leur espace client qui est en perpète construction depuis 10 ans. c'est dramatique. Et puis, c'est vrai qu'il leur manque, ce cPanel. Et c'est vrai que le cPanel a été un bon choix stratégique dès le départ de la part de Dev. Et c'est vrai que ça, c'est facile, en fait, hein, d'administrer son espace avec cet outil, quoi. Hein. Cette espèce d'envie de faire un rendez-vous en terre inconnue sans Frédéric Lopez avec 17 kilos de sac à dos, ouais, chapeau quoi, vraiment, je suis vraiment, ouais, tu vois, il y a un truc, ouais, je suis fier de toi quoi, voilà, c'est balèze, c'est balèze. Écoute, Roméo,
mais encore une fois, ça a apporté tout le monde et je tiens vraiment à le rappeler.
Ouais.
Et je veux pas faire de pub pour mon livre, mais sincèrement, vraiment,
oui.
D'ailleurs. Je vais te dire quelque chose, c'est une petite excuse, mais je laisse ça sortir avant. Mais il se trouve que le 14 avril, donc la date de mon anniversaire, mon livre sera gratuit en version e-book sur Amazon pendant 24 heures.
Génial.
À cette occasion-là, parce que je souhaite vraiment qu'un maximum de personnes puissent le lire. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent, ça se voit au prix du livre.
Bien sûr.
Vraiment quelques centimes. J'ai eu la chance d'en avoir vendu beaucoup plus que ce que je pensais.
T'en es à combien ?
Je peux pas vraiment le dire, mais j'en ai vendu plus de 1000.
D'accord, ouais, chouette.
Donc pour moi, c'est colossal.
Bien sûr.
Et pour te dire, aujourd'hui, les maisons d'édition, il y en a une qui est revenue me voir, une nouvelle qui m'a dit on a vu votre livre et finalement, est-ce que ça vous dirait? Bon, bref. Donc, non, trop tard, voilà.
Mais alors, est-ce que tu ne. En plus de cette cette activité de blogueur, est-ce que tu ne serais pas intéressé par une activité d'écrivain, de petits books de genre, style le guide du e-routard, par exemple?
Eh bien, en fait, justement, je pense que c'est pas fait pour moi. Je suis personne pour donner des conseils. Je pense que le fait d'essayer soi-même de faire des erreurs, etc., on apprend beaucoup plus qu'en lisant un livre. J'ai horreur des gens qui vendent des formations à 99 euros pendant 10 minutes pour apprendre la vie de ton activité sur le web. Enfin, toi, tout ça, je supporte pas. Et je me bats même contre ça, parce que quand je vois qu'un mec sur LinkedIn vend sa formation de 120 euros pour faire un sac à dos pour partir en voyage, qu'il en vend 500, que la vidéo elle dure 10 minutes, je ne vais pas citer de nom, mais ça m'énerve un peu, parce que derrière, il y a des gens qui ont payé surtout. Déjà, juste faire payer un livre, pour moi, c'était quelque chose. Toi. Mais après, il faut payer des gens qui impriment le livre, etc. Mais juste pour moi, je l'ai mis au prix le plus bas, je ne peux pas faire plus bas. La version physique, elle coûte 4 euros, livraison comprise. Toi.
Bien sûr, oui.
Voilà. En fait, je me suis dit que les gens m'ont toujours suivi gratuitement sur mon blog. Ils n'ont jamais payé pour me lire. Mm-hmm. Il est hors de question qu'ils dépensent 15 euros ou 20 euros pour ce premier livre, en tout cas. Mm-hmm. Alors, je ne dis pas que si j'en fais d'autres, je ne dis pas qu'ils sont un peu plus chers à 8, 9, 10 euros parce que c'est des heures de travail. À un moment donné, il faut que je vive.
Bien sûr.
Mais en tout cas, là, ce livre-là, je suis très content du prix auquel il est proposé et ça reste en tout cas dans mes convictions. Quoi. C'est-à-dire que on ne payera pas pour me lire et c'est aussi pour ça que le livre deviendra gratuit le 14 avril.
Dis-moi, Roméo, dernière question avant de se quitter. On peut te souhaiter quoi ?
Je pense qu'on peut juste me souhaiter de continuer à kiffer ma vie parce que c'est une chance et je pense que ce n'est pas à moi qu'il faudrait me souhaiter. Je pense qu'il faudrait souhaiter à ceux qui peut-être vont me regarder juste d'avoir la chance peut-être de faire la même chose et juste tous les matins de se lever, de savoir pourquoi et avoir juste avoir la même passion que moi, tu vois. Ou alors avoir une autre passion, mais vraiment qui te motive. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste, quand je croise des gens le matin, juste les regarder sourire et qu'ils me sourient, tu vois, pas qu'ils fassent la gueule dans le métro parce qu'ils vont aller se taper 9 heures de travail et que ça les fait chier.
Bon, on peut aussi les comprendre.
Et bien, justement, c'est pour ça.
Ouais, effectivement. D'accord.
Et j'espère pour eux qu'ils trouveront quelque chose qui vraiment les fait kiffer, quoi.
Ok. Écoute, on va te laisser. J'espère qu'il fait beau où tu te trouves. Là, c'est. Déjà ? D'accord.
Le Japon, la nuit tombe très, très tôt.
D'accord.
17h30, il commence vraiment à faire nuit, donc là, il fait nuit complète. Ouais.
D'accord, ok. Ben, nous, le soleil se lève, en tout cas chez moi. Écoute, je te remercie beaucoup. Je suis vraiment très content d'avoir fait ta connaissance. Vraiment, c'est. J'allais dire, on n'imagine pas le potentiel, mais je me rends compte petit à petit du potentiel et de la richesse, non pas, pas financière, parce que sinon IPFIX serait autre chose encore, mais de la richesse humaine des gens qui entourent IPFIX. Et ça, je sais que ça a été insufflé par la richesse de Dev. Hein, donc là, c'est vraiment. Je veux dire, on a ce qu'on mérite et je suis vraiment très très content d'avoir mérité et hérité de la clientèle de Dev parce qu'il y a vraiment des gens énormes. Il y a vraiment une foule de personnes et qui m'apportent énormément à moi à titre humain. Et je voulais vraiment te remercier pour ça, quoi. Hein, c'est vraiment sympa comme tout.
Parce que c'est rare qu'on soit pas juste en fait un paiement mensuel ou un paiement annuel et qu'on soit des fichiers sur un serveur. Il y a aussi des clients qui passent du temps derrière. Et juste en fait, tu vois, se sentir quand tu réponds très vite au service client ou quoi que ce soit, juste sentir que on n'est pas juste quelqu'un qui paye. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me fera rester chez IPFIX pour le coup. Et donc merci aussi pour avoir fait ta connaissance, ça me fait très plaisir pour le coup. J'ai déjà conseillé IPFIX à plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs de mes amis qui ont leur portfolio chez IPFIX. J'ai une amie qui a créé son site juste avant que je parte de France et elle est partie chez toi parce que je suis aussi.
Dernièrement, je ne sais plus son prénom, mais on a eu une cliente que tu m'as renvoyée dernièrement.
Anne-Sylvie, normalement.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et effectivement.
Donc voilà. Et puis après, moi c'est pareil, j'avais fait un article il y a très longtemps sur EuroWH qui aujourd'hui, quand il y a quelques visites de temps en temps, sur mon avis, donc voilà, je vais éditer cet article pour remplacer par IPFIX.
C'est sympa.
Voilà.
Eh ben écoute, merci beaucoup. Il est 12h04, on est toujours dimanche. Il est 19h04 au Japon, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça. Maintenant que vous êtes passé à l'heure d'été, du coup, c'est mieux pour moi.
D'accord, effectivement. Écoute, tu prends soin de toi. Merci de donner les nouvelles. Et puis, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. C'est super sympa. Hein. Merci beaucoup. Salut, Roméo. Prends soin de toi. À plus tard. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.